La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour Jean-Christophe, nous vous retrouvons pour une autre émission donc, de dialogue avec vous. Merci d'être là.
Bonjour Claire.
Voilà, aujourd'hui nous allons poursuivre ce que nous avons entamé la semaine dernière en élargissant vraiment à d'autres philosophies métaphysique du XXe siècle ou d'autres manières de concevoir la métaphysique. Je défends le point de vue de Jacques Maritain, donc qui défend la philosophie réaliste pour qui la métaphysique est la métaphysique de l'être. Or, ce n'est pas une évidence. Pouvez-vous nous rappeler, peut-être à partir de l'étymologie du mot, à partir d'un rapide éventail qui va trouver son origine chez Heidegger probablement, ce que vous comprenez par métaphysique, comment vous percevez le XXe siècle et pourquoi finalement Maritain est exaspérant dans sa lecture pour quelqu'un qui n'est pas croyant et qui trouve que Maritain mélange philosophie, théologie, que c'est une intrication assez douloureuse à la lecture.
Bon, très bien Claire, écoutez, je vais essayer parce que c'est quand même un vaste champ. D'abord peut-être faire un petit point sur le mot même de métaphysique qui peut prêter à confusion et qui est interprété et interprétable de différentes manières. Alors sur l'étymologie même de métaphysique, brièvement, on peut dire que ça fait référence à des œuvres d'Aristote, mais qu'Aristote lui-même n'avait pas du tout utilisé ce terme de métaphysique. Ce n'est que 400 ans après la mort d'Aristote qu'un de ses disciples, Andronikos de Rhodes, a classé la plupart des volumes, et en particulier 14 volumes qui traitaient de ce qu'Aristote appelait des causes premières. Et donc, comme il les avait classés après les volumes de la physique, il y a donné le terme de métaphysique, c'est-à-dire après la physique.
Parce que méta en grec veut dire après.
Après, voilà. Donc il faut déjà bien comprendre le sens, l'origine de ce mot-là. Après, évidemment, lors de la période médiévale, les philosophes médiévistes se sont largement inspirés de la philosophie d'Aristote et ont repris à leur compte le terme de métaphysique pour lui adosser d'autres idées, et en particulier un de leurs plus éminents représentants qui était Thomas d'Aquin. Donc Thomas d'Aquin va prendre un sens de métaphysique pour parler de choses dont on ne peut pas avoir l'expérience sensible. Voilà, on peut dire grosso modo que ce qui sépare chez les médiévistes, la métaphysique de la philosophie classique, c'est le fait de parler de connaissances, de choses dont on n'a pas la connaissance sensible. À partir de là, il faut voir que ce qu'on met derrière le mot connaissance, évidemment, est variable. Et dans un sens très général, la connaissance, ce n'est pas nécessairement une connaissance dure, c'est-à-dire une connaissance appuyée sur des équations mathématiques ou des faits expérimentaux scientifiques. C'est une connaissance au sens large, c'est-à-dire la connaissance que je peux avoir de ce qui m'environne aussi bien que de ce qui me questionne. Donc c'est très important quand on parle en philosophie, encore plus quand on veut aborder les thèmes de la métaphysique, de toujours donner la définition à partir de laquelle on part. Alors, je pense que sur le thème de métaphysique, il faut bien l'entendre. La métaphysique a été décriée principalement à l'entrée du XXe siècle par une série de philosophes qui étaient plutôt ce qu'on appelle des logiciens, comme quelqu'un comme Frege, par exemple, ou bien comme l'anglais Bertrand Russell. On va dire juste que dans le tournant des années 50, la métaphysique n'avait pas bonne presse, puisqu'elle faisait, c'était un peu assimilé à du spiritualisme, et donc pas franchement digne de connaissance. c'est assez surprenant de voir qu'elle a finalement réémergé avec un courant qui est un courant tout à fait connexe à celui des logiciels, qu'on appelle le courant analytique, et que, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un comme Claudine Tercelin a ouvert une chaire de métaphysique au Collège de France en parlant de la métaphysique analytique. Bon. Donc, il y a différentes métaphysiques. Ça aussi, il faut bien comprendre que la métaphysique thomiste et la métaphysique analytique, par exemple, sont deux types de métaphysiques qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre.
Et c'est là que Marita intervient en disant, finalement, la vraie métaphysique sera la métaphysique de l'être, et les autres non, ne sont pas dignes de ce nom. Et quand vous parlez donc de connaissance qui est différente de la connaissance mathématique, parce qu'elle n'est pas fondée sur les sens, Marita fait vraiment la distinction dans les différents savoirs. C'est une œuvre des années 30, les degrés du savoir, où on monte dans l'abstraction, et la métaphysique, elle, est située donc dans le plan spéculatif, et elle est finalement le degré ultime d'abstraction. Mais il souligne qu'il y a deux modes de connaissance, on va dire, l'idée, avec le concept, et le jugement. Et ces deux modes qu'il va distinguer, et pour lui, l'être, justement, c'est-à-dire l'existence, hein, proprement parler, puisque l'être se dit dans l'existence, c'est on y a accès non seulement par un jugement d'existence, pour tout le monde c'est acquis, mais par un concept. Et là on a une révolution propre à Maritain, où il parle d'un concept d'existence, comment ? Par un retour critique finalement de l'intuition de l'existence sur elle-même. Et c'est d'ailleurs l'enjeu d'une polémique avec son ami Gilson, qui n'accepte pas qu'il y ait un concept d'existence. Ça lui semble être un mouton à cinq pattes. Du coup, je crois que c'est l'enjeu de notre débat. Il y a une sorte d'exclusivisme dans la pensée de Maritain pour dire la métaphysique, c'est la métaphysique de l'être. Et pourquoi ? Parce que l'être, on baigne dans l'être, et quand vous parlez d'un retour de la métaphysique au début du XXe siècle, en même temps qu'un éloignement, il y a quelqu'un qui a opéré ce retour, c'est leur maître à penser, le maître à penser donc de Raissa et de Jacques, c'est-à-dire Bergson, jusqu'au moment de leur rupture avec Bergson, donc à partir de 1906. Mais dans les années 1905, Raissa et Jacques suivent les cours de Bergson au Collège de France et sont fascinés parce que Bergson dit « nous vivons dans l'absolu ». Et il rappelle cette dimension donc métaphysique, c'est-à-dire de l'ordre du pourquoi et pas de l'ordre du comment, comme le sont les sciences expérimentales et même les sciences fondamentales qui vont abstraire pour tirer des lois. Du coup, c'est ça notre enjeu, parce qu'on peut parler d'une métaphysique épistémologique, sémantique, mais Maritain ne cautionnera pas ces métaphysiques-là. Pour lui, la métaphysique véritable, c'est la métaphysique de l'être. Et notre question initiale depuis le mois de septembre, c'est comment Maritain peut-il encore être lisible, ou même pas lisible, mais lu, ouvert, tout simplement, parcouru, par nos contemporains, pour lesquels Maritain est un has-been, comme diraient les adolescents, appartient au passé, est à classer dans une sorte de préhistoire de la pensée, qui n'a plus d'impact ni d'intérêt pour le lecteur contemporain. Alors si vous pouvez peut-être relayer ce que vous venez de dire avant la pause musicale pour en faire une sorte de synthèse.
Bon, alors je vais être bref parce que je crois qu'il ne reste que peu de temps dans la pause musicale. D'abord, le premier point que je veux souligner dans ce que vous avez dit, c'est que pour Maritain, il n'y a qu'une seule métaphysique, la vraie, la sienne. Donc ça, c'est un côté absolutiste, évidemment, qui est assez surplombant et je pourrais dire d'une certaine manière énervant pour quelqu'un qui lit Maritain, c'est-à-dire cette espèce d'arrogance à vouloir prétendre être dans le vrai et qu'il n'y aurait qu'une seule chose, qu'une seule... Donc ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième point, mais je ne vais pas développer dessus, c'est sur la question de l'être, qui est une... ce mot être dans la langue française, comme dans la plupart des langues indo-européennes, est tellement multiple qu'on peut entendre tout et son contraire. Donc voilà un gros sujet de débat sur lequel on pourrait consacrer une seule émission.
On va essayer de l'aborder après la plage musicale, un petit peu cette notion de l'être, si vous le voulez bien. Et en écoutant votre choix musical, c'est des œuvres pour piano de Dvorak.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Bonjour Jean-Christophe, finalement on peut résumer notre discussion à une ou des métaphysiques. Qu'est-ce que le vrai, puisque Maritain propose une métaphysique arc-boutée sur le vrai, puisqu'elle est connectée, hein, pour utiliser un terme moderne, à la théologie. Et pour vous, c'est surplombant et c'est surtout peut-être présomptueux. Je reprendrai, avant de vous rendre la parole de manière plus longue pour cette plage, je crois que Maritain ne prétend pas être seul. Il veut vraiment s'inscrire dans un courant, une tradition séculaire, 10 siècles, on va dire, de Moyen-Âge et de réflexion, et qui s'appuie sur une philosophie païenne, la philosophie d'Aristote comme outil, qui n'est pas rebaptisée, mais qui est utilisée par saint Thomas. Et je crois que cette inscription dans la tradition, c'est-à-dire dans plusieurs pensées, un effort humain, il le revendique de manière très claire en disant « je ne suis pas thomiste, je ne suis même pas un paléo-thomiste, appelez-moi comme vous voulez, mais surtout pas un néo-thomiste ». Et ça, on ne peut pas donner pour qualifier la philosophie réaliste le nom d'une personne unique, si grande soit-elle. Donc je crois que ce genre de remarque permet de resituer Maritain non pas comme quelqu'un qui surplombe, mais comme quelqu'un qui a pour adage, il faut avoir un esprit ferme et un cœur doux, et pas un esprit mou et un cœur sec. Je crois que son idée d'une vision très claire des choses, même dans l'abstraction, elle est forte. Et pour lui, l'être, on y baigne. Voilà, je vous donne la parole de manière plus longue.
Très bien. Alors, je vais rebondir sur cette notion de l'être, puisque c'est effectivement l'essence même du thomisme, la question de l'être. Donc maintenant, sans entrer dans le détail de ce qu'on entend par être ici, je voudrais simplement souligner que au cours du XXe siècle, donc à l'époque même de Maritain, il y a un philosophe qui est son contemporain et qui est vraiment le philosophe considéré aujourd'hui comme celui de l'être. Il s'agit évidemment de Martin Heidegger, puisqu'il a son ouvrage majeur s'appelle « Être étant » et qu'il a écrit une conférence qui s'appelle « Qu'est-ce que la métaphysique ?». Donc la question de l'être est reprise par différents courants philosophiques, et donc le thomisme et Jacques Maritain à travers lui, ne sont pas les seuls courants à évoquer la notion de l'être. Et évidemment, la métaphysique de Heidegger n'est pas une métaphysique thomiste. C'est une métaphysique qu'il hérite de son maître Husserl, c'est-à-dire une métaphysique de la phénoménologie, c'est-à-dire de l'étude des phénomènes, c'est-à-dire de ce qui nous apparaît du monde. Et pour Heidegger fait un travail d'archéologie des textes, il va revenir sur des philosophes pré-socratiques pour essayer de définir ce que c'est que l'être. Donc, je voulais quand même souligner qu'à la même période où Martin écrit son cours de philosophie, Martin Heidegger écrit lui aussi des traités de philosophie. Et apparemment, il n'y a pas de connexion entre les deux, ni l'un ni l'autre ne se connaissent, il semblerait. Ce qui est important aussi de voir, c'est la proximité finalement de Martin Heidegger avec la religion chrétienne qui a baigné sa vie. Il était même catholique jusque dans les années 1917, où il a rencontré sa future épouse, grâce à laquelle il s'est tourné beaucoup plus vers le protestantisme. Mais toujours est-il qu'il était empreint de cette culture religieuse, et jusqu'à la fin de sa vie, il dira qu'on ne peut pas oublier une éducation religieuse dans le cours de ses pensées. Cependant, en 1920, dans son cours qui s'appelle « Interprétation phénoménologique en vue d'Aristote », il reprend le domaine d'étude que lui a fixé son maître Husserl, de définir d'une manière phénoménologique ce qu'est la théologie. Et il écrit ceci, qui évidemment l'éloigne définitivement de Maritain. La philosophie doit, dans sa problématicité radicale, et reposant sur soi, être principalement athéiste. Il met un tiret entre athéiste. Il s'agit pour lui ici d'adopter une position d'athéisme méthodologique, un petit peu comme on dirait le doute méthodologique et la méthode de Descartes. Voilà, donc cela dit, bon, Heidegger va évoluer aussi dans sa pensée. Je voulais simplement souligner ici qu'il y a une ouverture possible de la pensée de l'être au-delà d'utopisme, des pensées qui sont tout aussi solides et en tout cas qui permettent de rentrer dans une discussion.
Oui.
Nous avons été en même temps à la faculté de Toulouse, je voulais quand même souligner qu'un professeur qu'on a eu en commun, Claudia Serban, a écrit un article que je recommande à la lecture et qui est disponible sur Internet, qui s'appelle « La phénoménologie de la vie religieuse du jeune Heidegger, une mise en perspective », pour ceux qui voudraient se pencher sur ce problème spécifique d'Heidegger.
Je vous remercie pour cette approche et en réponse, je proposerai à nos auditeurs un petit livre qui est aussi sur Internet, sur le site du CIPRE, Société Internationale de Philosophie Réaliste. Il s'agit d'un écrit de René Mougel. René Mougel a tenu pendant des années les archives Maritain à Kolbsheim, là où Jacques et Raissa Maritain sont enterrés. Et il a écrit un petit essai, une mise au point finalement, intitulé « L'existence partagée ». Observation sur l'analogie de l'être dont nous reparlerons en janvier. Et il ouvre son livre par une référence à Heidegger. Comme Heidegger a eu raison d'affirmer que la merveille des merveilles, c'est que l'étang est. Alors quand je dis il ouvre, ce n'est pas exactement lui, c'est un professeur de Cagnes maintenant à la retraite de Toulouse, Michel Naudet-Langlois, qui dans son avant-propos fait ce rapprochement pour rappeler que Heidegger, même s'il s'est attaché à l'étang, s'est tout de suite écarté finalement de la philosophie de l'être contre laquelle il va faire Sein und Zeit, donc être et temps, son œuvre majeure, il va l'écrire, parce qu'il vient de la phénoménologie qui a pour base l'époquée, c'est-à-dire on met entre parenthèses le réel et on ne va s'attacher qu'au Dasein, c'est-à-dire à l'étang. Donc on est à l'opposé d'une métaphysique de l'être chez Heidegger, on est au contraire dans un dialogue, j'allais dire, presque subversif, essayer de proposer ce qu'on peut avoir aussi, in fine, chez Jean-Luc Marion, dans son titre « Dieu sans l'être », essayer d'avoir une approche complètement différente dite de la métaphysique par la phénoménologie. Donc on n'est plus dans quelque chose de rigoureusement établi. Alors pourquoi je défends le point de vue de Maritain en disant il n'y a qu'une manière de définir la métaphysique? Parce que Maritain, plus dans plusieurs écrits, en particulier dans le court traité de l'existence et de l'existant, écrit en 47, donc après la guerre, insiste sur le fait que cette intuition de l'être fait qu'elle remonte finalement au créateur et qu'on ne peut pas séparer l'interrogation philosophique de l'interrogation dans son lien à la théologie. Ce rapport théologie et philosophie, il est le nerf de la guerre, non seulement de l'existence de la philosophie elle-même, qui peut être autre chose hein, qu'une sociologie ou qu'une réflexion comme ça, vague. On ne peut pas en faire l'économie parce qu'elle s'articule pour lui de manière organique à la théologie. Voilà, c'est ça notre enjeu, parce que dans un monde, comme vous dites, athée, qui met comme méthodologie la mise entre parenthèses, Descartes se fait une éthique par provision, c'est-à-dire de manière provisoire, en attendant d'avoir fondé sa métaphysique sur les idées claires, et donc sur le cogito ergo sum, on est toujours dans cette démarche de faire une époque, une parenthèse, une provision, en attendant de chercher, c'est-à-dire de fonder autrement que sur l'être, puisque Descartes, c'est le père de l'idéalisme. Et c'est ça que reproche Maritain à la philosophie dite moderne, la modernité commençant la Renaissance. Donc on est peut-être dans un dialogue de sourds, dont une issue pourrait être trouvée dans la définition de l'analogie. Mais nous y reviendrons dans une émission suivante. C'est dans cet écrit, donc L'existence partagée de René Mougel, qui est expliqué de manière très claire l'enjeu dans la distinction de l'analogie dite de rapport et l'analogie dite de proportion. Je vous rends la parole parce que la plage musicale va revenir et nous nous retrouvons pour finir l'émission juste après.
Écoutez, je vais être très bref. C'est simplement ici, on retourne à nouveau sur la question de l'être. Et questionné, il y aurait donc un être, on va dire, supérieur, pour reprendre des termes propres au thomisme, qui serait différent de cet être étant, cet être existant. Donc, je vous propose de revenir après sur qu'est-ce qu'il y a derrière ce discours sur l'être.
Merci.
Derrière.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Bonjour Jean-Christophe, il va vous revenir de terminer notre émission. Je vous laisse la parole en annonçant à notre auditeur qu'il y aura une surprise de fin d'année. La prochaine émission sera consacrée à Raissa Maritain et à sa poésie.
Très bien Claire, écoutez, donc je vous propose pour terminer cette émission de revenir sur les arrière-plans du discours sur l'être. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un discours sur l'être? Et finalement, pour mentionner un livre qui est paru cette année d'un philosophe français qui s'appelle Pascal Nouvel, livre qui s'appelle « Avant toute chose, enquête sur les discours d'origine ». Alors, pourquoi est-ce que l'être pose le discours de l'origine? Parce qu'en réalité, la question métaphysique de l'être, c'est qu'est-ce qui sous-tend l'être existant et qu'est-ce que c'est que cet être de l'être existant, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet à l'être d'exister. Et donc c'est bien un discours sur cette origine. Donc ce que Pascal Nouvel a fait, c'est un travail assez remarquable d'étude des textes philosophiques de tous âges et de tous bords, pour finalement trouver qu'il existe dans la littérature philosophique quatre types de discours sur les origines. Le discours, évidemment, des anciens, qu'on va appeler le discours mythique, hein, qui, je cite Pascal Nouvel, ont la particularité de faire intervenir des événements fabuleux, jamais observés dans la nature, et rapportés à un lointain passé. Et le degré d'éloignement de ces événements par rapport au présent n'est généralement pas précisé. On en a déjà évoqué ce genre de discours mythique. Le deuxième type de discours qu'il reconnaît, ce sont les discours dits rationnels, c'est-à-dire qui constituent le passage qu'on avait aussi déjà évoqué du mutos au logos et qui se caractérise par une critique rationnelle. Donc Pascal Nouvel écrit, si les récits cosmologiques relèvent de la fable, comment les choses se sont-elles donc réellement passées? Ça, c'est la véritable interrogation. On va dire que c'est même le départ de ce qu'on nomme la philosophie. C'est aussi, il faut le noter ici, la base du discours réaliste chrétien. Le réalisme chrétien s'appuie sur le discours rationnel, sur la raison.
Je vais vous demander de synthétiser parce qu'il reste 30 secondes.
Alors, les deux autres types de discours rapidement, le discours scientifique qui s'appuie sur les faits et les observations, ça on en a déjà parlé, et enfin, le dernier discours qui est le discours phénoménologique, on l'a abordé à travers Martin Heidegger, mais là il me faudrait beaucoup plus de temps pour aller plus loin sur ce type de discours.
Merci, nos auditeurs retrouveront Pascal Nouvel fin janvier, nous poursuivrons notre débat. Merci à vous Jean-Christophe, bonne fête de Noël et de fin d'année. Au revoir.
Au revoir Claire et bonne fête à tous les auditeurs.
Merci.